La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Eh bien maintenant, si Astrid veut bien venir me rejoindre pour nous introduire dans le sujet de la méditation de ce matin.
Je me suis dit, viens, goûte au plaisir de la vie, découvre le bonheur. Et voilà, cela non plus n'a pas de sens. La gaieté est une chose stupide et la joie n'apporte rien. J'ai décidé de me mettre à boire et d'imiter ceux qui manquent de sagesse tout en restant maître de moi. Je voulais voir ce que les humains peuvent faire de bien dans ce monde, tout au long de leur vie. J'ai réalisé de grandes choses. Pour moi, j'ai bâti des maisons et j'ai planté des vignes. J'ai fait des jardins et des plantations avec toutes sortes d'arbres fruitiers. J'ai construit des citernes pour arroser les jeunes arbres de mes plantations. Pour moi, j'ai acheté des esclaves, hommes et femmes. J'ai beaucoup de serviteurs. J'ai possédé de grands troupeaux de bœufs et aussi des moutons et des chèvres. Plus que tout, ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. J'ai amassé de l'argent et de l'or, les trésors des rois et des provinces sous mon pouvoir. Des chanteurs et des chanteuses venaient me distraire. J'ai eu ce que les hommes désiraient de plus, un grand nombre de femmes. Je suis devenue quelqu'un d'important. J'ai dépassé tout ce qu'ils ont vécu avant moi à Jérusalem. Et pourtant, j'ai gardé ma sagesse. Je me suis donné tout ce que mes yeux désiraient. Je n'ai privé mon cœur d'aucun plaisir. Oui, j'ai profité de tous mes travaux et j'ai été largement récompensée de toutes mes peines. Alors, j'ai réfléchi de toutes mes activités, à tout le mal que je me suis donné pour les réaliser. Et voilà, tout cela ne sert à rien. Autant courir après le vent.
Je remercie Claude d'avoir accepté notre invitation et je lui laisse tout de suite la place.
Merci. Avec la monitrice de l'école du sabbat et avec tout ce qui a été dit, merci pour le poème, Liliane. Voilà que je n'ai plus grand chose à dire alors. Écoutez, ça fait 16 ans en effet que, j'allais dire 16 ans déjà, il y a 20 ans déjà, vous savez, un livre qui a été écrit, 16 ans déjà, et en effet, ces années qui sont passées n'ont pas été des années stériles. Cet après-midi, je ne sais pas si la réunion est maintenue, mais cet après-midi, j'aurai l'occasion de vous parler d'une expérience intéressante que nous avions faite avec mon épouse au Maroc pendant 5 ans. Donc, j'ai eu l'occasion de reprendre un peu du service en 2005 parce qu'il n'y avait personne à Tours. On attendait le pasteur Goléa qui devait venir. Donc, j'ai eu ça. Et puis, 5 ans au Maroc, ça nous a mené jusqu'à... bien sûr, dans notre église à Châtellerault, où je suis actuellement. L'église, en général, bien sûr, change. Je reconnais des visages. Mais pour tous ceux que je ne connais pas, je voudrais dire que le fait de rencontrer un adventiste, ça devient un ami tout de suite. Tout de suite. Et dans la communauté ici, bien sûr, on ne se présente pas toujours, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des adventistes ailleurs. Et lorsqu'on dit « je suis adventiste », alors il y a tout un cheminement qui se fait entre soi. C'est-à-dire, s'il est adventiste, il pense comme ceci, il pense comme cela, il pense comme ça. C'est mon ami, c'est mon frère. Et alors, il y a tout de suite quelque chose. Si bien que je voudrais dire à tous ceux que je ne connais pas, à tous ceux que nous ne connaissons pas, vous êtes mes amis, bonjour frères et sœurs, bon sabbat, et vraiment on vous aime, on nous aime. Quand un pasteur est dans l'église, il a l'habitude de connaître les membres d'église, il les visite, et il prépare ses prédications en fonction du besoin de l'église, c'est toujours comme ça que l'on fait. Je ne sais pas si le sujet que j'ai proposé ce matin va convenir. Je le souhaite parce que j'ai demandé au Seigneur de m'inspirer. On dit toujours cela, et c'est bien. Et j'ai donné comme titre à ce sujet, à cela, la parole qu'on a étudiée à l'école du sabbat le trimestre dernier, quand l'apôtre Paul s'adresse aux Galates et il dit « Où est donc l'expression de votre bonheur ?» Au chapitre 4 et au verset 15, je vous avais cela, où est donc l'expression de votre bonheur? Autrement dit, on s'attend à ce que le croyant soit toujours joyeux, qu'il se messe toujours, et ça. Bon, on ne va pas faire l'école du sabbat, on se rappelle bien pourquoi les Galates n'étaient pas heureux, tous les problèmes qu'ils ont eus, mais où est donc l'expression de votre bonheur? Et vous le savez bien, elle l'a dit, la monitrice de l'école pour les enfants, elle l'a dit, on parle du bonheur constamment. On dit c'est du bonheur, quand on dit ah ben c'est du bonheur. On vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Et cette expression est là. Et c'est vrai que dans l'étymologie du mot, le mot bonheur, c'est le souvenir, c'est la perspective à la fois du passé, quand la situation était bien, du présent, quand on le vit, et puis du futur. La perspective du futur est aussi importante. Mais voilà, l'homme, bien sûr, l'homme court après le bonheur. Il court de plus en plus et il s'attend au bonheur et il espère que tout va lui réussir facilement, en tout cas dans ce qu'il entreprise, que les nouvelles soient bonnes, que les choses ne soient pas de mauvais augure, et il espère au bonheur. J'ai mis là un livre qui vient de sortir de presse, il est écrit par Martine Ridal, « Le bonheur sans illusion ». Et il a été 368 pages, 19 euros si ça vous intéresse. 50% des jeunes entre 14 et 18 ans rêvent au-dessus de tout d'être célèbre. Le bonheur, 50%. 61% des Français affirment de manquer d'argent et souhaitent en avoir pour être heureux. C'est son bouquin, il vient de sortir en 2017. 94% des Américains pensent qu'il n'y a rien que l'argent qui peut les rendre heureux et pas autre chose. Là, excusez-moi, c'est dans le livre, je vais le dire quand même. 98% des femmes interrogées ne se sentent pas belles et souhaitent le devenir pour être heureuses. C'est l'auteur. Il y a 5 piliers pour le bonheur. Et il dit la gloire, la beauté, l'argent, le pouvoir et le sexe. Voilà la situation telle qu'elle est au sujet du bonheur qui se fait. Et pour le bonheur, l'homme va mettre tout en œuvre, tout. Pour l'obtenir, formation professionnelle, il va falloir réussir. Réussite dans les entreprises, réussite familiale. Et j'abrège, bien sûr, on s'apercevra que la situation va être difficile. Il va commettre tout pour essayer d'avoir le bonheur et il va faire sa première erreur. La première erreur, c'est qu'il va confondre le bonheur avec les commodités de la vie. Ah, la voiture, la maison. La voiture, la maison, le lave-vaisselle, tel appareil. Ah, c'est le bonheur, si on a ça. Un appareil pour faire la soupe, par exemple. On a mangé une excellente soupe hier soir, un appareil extraordinaire. Vous mettez ça, tout est là. Quel bonheur! Première confusion. Il va confondre le bonheur avec les plaisirs. Avec les réceptions, les banquets, le cinéma, la boîte pour les jeunes, les vacances. Ça, c'est du bonheur. On croit que c'est du bonheur. Parce qu'on est joyeux, on s'amuse, on crie. Et il va confondre aussi le bonheur avec la gloire. La gloire. Les relations, la renommée, mon carnet d'adresse, les titres que j'ai. Docteur en ceci, docteur en cela. Et je me rappelle de Richard Lehman, un jour, je ne prévoyais pas de le dire, mais Richard Lehman, un jour, je ne prévoyais pas de le dire, mais en parlant de docteur, j'y pense, quand il avait réussi son doctorat en théologie à Strasbourg, il était venu à la Fédération, et dans un comité, il a dit, vous savez, quand on vous dit docteur, alors vous vous sentez gonflé. Mais lui, il le disait parce qu'il a été conscient de ne pas tomber dans le piège. Il dit, on vous dit docteur. Oh, on est gonflé, on est heureux, on a réussi comme ça. Et souvent, frères et sœurs, pour obtenir ce que je viens de dire, eh bien, tout cela en tout cas, l'homme va faire des choses impossibles. Il va peut-être rompre avec des relations. Il va se couper de gens, d'autrui. Il va tricher. Il va mentir. Il va peut-être tuer. Pour avoir le bonheur, il va faire des compromis. Il va se séparer peut-être de Dieu, parce qu'il croit que c'est ça le bonheur. Et il ne se souviendra pas toujours, mais est-ce qu'il le sait seulement ? L'a-t-il appris ? Que le sage Salomon, dont cette jeune fille a lu le texte il y a un instant, a connu toutes ces choses que je viens de dire. Il a connu les commodités, Salomon, les écuries, le palais, les serviteurs, les fêtes, les distractions, le nombre de femmes que la Bible nous mentionne et de concubines. Il a connu la gloire, vrai ? L'argent, l'or, il est reconnu, la reine de Saba vient le flatter en quelque sorte. Mais en dehors de tout cela, en plus de tout ce qui est tangible, voilà que lui-même est un être exceptionnel. Je vous invite à dire, par exemple, un livre des rois. Si vous avez l'écriture avec vous, je sais qu'avec ce système automatique, en général, les textes apparaissent. Et la Bible, on la met pas toujours en évidence, mais dans le livre des rois, au chapitre 4, verset 29, je serai court. J'essaierai d'être court, j'avais des citations que je ne donnerai pas. Il y a Salomon, il a de la sagesse, il est cultivé, il a de l'intelligence. Ça vaut la peine de lire encore ce texte ce matin en lisant « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multiples, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était le plus sage qu'aucun homme. » Sagesse extraordinaire. Au point de vue de l'intelligence, on le trouve. Vous pouvez lire un roi, chapitre 3, verset 9. Pourquoi pas, on a juste la page à tourner. « Accorde donc, dit Salomon à Dieu, à serviteur, de l'intelligence pour juger le peuple. » Et la réponse de Dieu vient un peu plus bas, au verset 12. « Je donnerai un cœur sage et intelligence, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne de toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Salomon. Et la sagesse de Salomon, dans la fameuse image qui nous est donnée quand il rend justice au chapitre 4 et au verset... un peu plus bas, au chapitre 3, mais au verset 28, quand il rend justice avec ces deux femmes qui viennent se plaindre que l'enfant qu'elles avaient leur appartienne, et il va donner. On en parle encore aujourd'hui, même dans les écoles, la justice de Salomon, la sagesse de Salomon. Et les Arabes en particulier, dans l'islam, c'est Sidi Slimane, c'est le philosophe par excellence, Sidi Slimane. Ils y croient énormément. Eh bien, que dit-il cet homme ? Tout ça, les voitures, les ceci, les cela, tout ça c'est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Alors on peut se poser la question. Je veux vous dire que d'autres personnes aussi, je ne citerai pas, j'avais des citations, on va être court, je suis toujours un peu long, excusez-moi, mais aujourd'hui c'est plus... des citations d'hommes célèbres qui ont parlé sur le bonheur. Je cite qu'un que nous connaissons, Napoléon. Il dit, je ne sais pas quand, on ne sait pas quand, dans toute ma vie, j'ai connu 6 jours de bonheur. Napoléon. Et vous avez d'autres. Ah donc, on se dit, le bonheur est donc insaisissable. Comme dit le poème, le bonheur est dans le pré, cours-y donc, le bonheur est dans le pré, cours-y donc. Il s'est envolé. Et l'homme, cependant, poursuit et recherche sans cesse le bonheur. Est-ce qu'on doit lui reprocher ? On sait, frères et sœurs, que lorsque quelqu'un est heureux, c'est légitime. Un homme ou une femme heureux ou heureuse, eh bien, est plus efficient, plus efficace. On peut penser ça. Plus productif aussi. Quand on est heureux, on produit davantage. Donc, cherchons le bonheur. Cherchons le bonheur. Et voilà qu'il va commettre une deuxième erreur. Il va faire un paradoxe que nous trouvons dans l'Écriture. Deuxième erreur dans ce paradoxe qui est surprenant et que nous rapporte le psaume 23e. Et je vais au psaume 23e. Et dans la traduction de l'abbé Segond, de Segond, nous avons ce terme qui est donné, mais dans la Tobe, il y a quelque chose de particulier. Alors, je prends le psaume 23e. Si vous avez l'écriture, ça vaut la peine, si c'est une peine, de le prendre aussi, pour pouvoir voir ce qu'il y en a. Au psaume 23e que nous avons là. Ce qu'il y en a. Au psaume 23e que nous avons là. Dans le psaume, dans la seconde, il est dit, au verset 6, « Oui, la fidélité et le bonheur m'accompagneront. » Et dans la tobe, il est employé un verbe très intéressant, c'est pour ça que j'ai une erreur que l'homme peut faire. Le bonheur, la fidélité et le bonheur me poursuivent. Et le terme et le verbe qui est employé, c'est un verbe de quelqu'un qui veut rattraper quelqu'un d'autre. C'est un combattant qui est lancé à la poursuite de quelqu'un. Alors autrement dit, l'homme court après le bonheur pour sa réussite dans ce que nous avons vu, et voilà que Dieu court après lui pour lui apporter le bonheur. Vraiment extraordinaire. Et c'était la deuxième erreur dans ce paradoxe, c'est que l'homme court après le bonheur et Dieu court après lui. Donc, dans cette réflexion ce matin, que je voudrais employer, qui est important, alors que l'homme court en avant pour saisir le bonheur, toujours insatisfait, le bonheur court derrière lui pour le rattraper, pour le rejoindre, pour l'atteindre. Alors il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il s'arrête de courir. Il faut qu'il s'arrête de rechercher la gloire, le succès, les titres, etc. et qu'il croit que ça, c'est le bonheur. Il faut qu'il fasse un stop, parce que c'est ça qui est important. Il faut qu'il s'arrête. Il faut se laisser rattraper par Dieu. C'est ça qui est important. Il faut prendre le temps pour recevoir Dieu, ce que l'homme ne fait pas. Il court de plus en plus. Il emploie les moyens les plus divers, mais il ne sait pas s'arrêter pour recevoir Dieu. J'ai une illustration qui est donnée dans un livre très intéressant de Roland de Pury, Présence de l'éternité. Et dans cet ouvrage, y a une illustration qui dit ceci, qui montre. Il dit, voici, l'homme, c'est comme un plan d'eau. Et dans ce plan d'eau, quand l'eau est calme, vous avez les arbres qui se reflètent de part et d'autre. Et si vous penchez votre visage, vous allez voir votre visage dans ce plan d'eau. Mais prenez un caillou ou une branche et faites bouger cette eau. Automatiquement, l'image des arbres et votre propre image va disparaître. Et il dit voilà, l'homme c'est ça. Dans la mesure où il est calme, dans la mesure où il est paisible et serein, Dieu peut se refléter en lui. Mais dès le moment où il est troublé, au moment où il est agité, au moment où il est préoccupé, au moment où ça ne va plus, Dieu voudrait lui dire quelque chose, mais en réalité, il n'en a pas la possibilité. Il faut donc s'arrêter. Il faut donc s'arrêter et écouter. S'arrêter et comprendre. S'arrêter et attendre. Il faut prendre conscience. La vraie piété, frères et sœurs, ce n'est pas ce que l'on fait, c'est ce que l'on reçoit. Cette capacité qui est extrêmement importante. Et en réalité, dans nos prières, nous formulons nos prières et nous informons Dieu de ce qu'il sait déjà, nous le savons très bien, et nous ne savons pas attendre la réponse que Dieu nous donne. C'est bien, souvent on dit, après la prière, attendez quelques minutes. Et c'est vrai que j'ai entendu dire aussi que, en parlant à Dieu, on s'informe soi-même de choses que peut-être qui nous viennent à l'esprit, et que la prière a ce but aussi de nous informer de ce que nous sommes. C'est vrai. Mais Dieu a des choses à nous dire. Et nous ne savons pas toujours l'entendre parce que nous ne prenons pas le temps de l'écouter. D'où la méditation, qui ne veut pas dire qu'il faut réfléchir sur un texte, ou la méditation, je ne voudrais pas dire qu'elle soit collective, bien que dans certains milieux bouddhistes, vous savez, ça se pratique très, très, très facilement et peut-être fructueusement. Mais la méditation, en rentrant dans sa chambre, en se mettant à genoux, « Seigneur, tu sais tout, mais je ne sais pas ce que tu veux de moi. Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et nous réfléchissons, et nous pensons, et nous sommes en contact avec Dieu. Il y avait une illustration où il y a un monsieur qui était directeur, qui était dans son bureau à la maison, il avait un bureau, comme j'en ai vu, et il était là, il avait l'habitude d'avoir sa petite fille qui venait, et chaque fois elle venait, il dit, qu'est-ce que tu veux ma chérie ? Papa, je voudrais ça et ça et ça. Bon, voilà, alors il faisait. Puis un jour elle est venue, et elle s'est assise, qu'est-ce que tu veux ma chérie ? Rien. Je voudrais simplement être auprès de toi. Simplement. Et c'est ça, frères et sœurs, nous avons de la théologie, très bonne théologie, chantons des cantiques, Tout se formule de cette manière. Quelle est la présence du Seigneur dans ma vie, dans mon cœur, en moi? Quelle relation j'ai établie avec lui? C'est ça qui est extrêmement important. Comment est-ce que je le reçois? Et cette méditation, elle est excessivement importante, sinon nous n'entendons pas ce que Dieu a à nous dire. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a quelque chose à dire à chacun de nous, selon ce que nous sommes, selon les besoins que nous avons. Probablement que nous ne connaissons même pas nos besoins. Et dans ce moment de méditation, nous le ressentons. Et alors arrêter, rattraper, visiter par Dieu de cette manière-là, on remarquera les cinq verbes qu'il y a dans le psaume 23. On ne peut pas les détailler, bien sûr. Et ce serait intéressant de le faire. Je ne manquerai de rien. J'ai la certitude qu'il est avec moi, je ne manquerai de rien. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Quelle sérénité. Voilà le vrai bonheur. Le vrai bonheur, il s'obtient, frères et sœurs, il ne s'obtient pas avant d'avoir reçu en soi le véritable bonheur que Dieu veut donner aux hommes. Et tout prend un sens comme ça. Il me fait reposer. Bien sûr, on est plus soucieux, on est plus préoccupé, on n'est plus comme ça. On est serein. Tu es là, tu vas au tribunal, tu as des problèmes. Non, votre Père Céleste va pouvoir vous diriger. Il me dirige dans les eaux paisibles, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Tout ça parce que véritablement, il est en nous, il est en nous. Alors, frères et sœurs, c'est vrai qu'à côté de ça, il restaure mon âme. La Tobe donne un très beau texte. Il réchauffe mon cœur, il ranime le feu de ma vie et nous devenons in teu, c'est-à-dire en Dieu, enthousiasmés. C'est merveilleux, merveilleux quand le Seigneur habite véritablement un corps. Mais bien sûr, on pourrait dire c'est trop facile, et c'est pas si simple, le mal existe, et dans le psaume, vous le savez, il est dit là. Et là, c'est une petite nuance encore intéressante qu'il y a dans la Tobe. Ici, il dit « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Et la Tobe a traduit, mais c'est enrichissant de voir les différentes traductions. « Si je marche dans la vallée de la mort ». Pas « quand je marche ». Le « quand je marche », ça veut dire que c'est constamment. Non, « si », ça peut m'arriver. « Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors je ne crains aucun mal et je suis rétabli avec toi. » L'homme est inquiet par les difficultés, par le mal, par la maladie, par les handicaps, par la menace, l'insécurité, la peur, et Dieu lui accorde véritablement la foi. Ah, il peut ressentir des craintes. Vous savez, j'avais une citation d'Hélène White, je la donne là. « La foi n'est pas l'absence de la peur. » Mais la confiance en présence du danger. C'est magnifique cette citation. La foi n'est pas l'absence de la peur, mais la confiance dans la présence du danger. Et on voit de magnifiques choses. Alors, je crois qu'il est important de vivre cette expérience et avec ceux que nous rencontrons. Nous sommes, frères et sœurs, dans une société où les hommes sont inquiets. Ils sont craintifs, ils ne sont pas heureux. J'ai une citation avec moi, je peux quand même la donner, pourquoi pas. Elle vient. Elle est de Frédéric Lenoir, vous connaissez, qui a des cheveux religieux. Il dit ici 80% des personnes. Il a écrit un livre. 80% des personnes interrogées disent que tout va mal. Et en réalité, les Français sont des pessimistes. Tout va mal. Il fait beau aujourd'hui. Ah ouais, mais demain, hein. Les Français sont des pessimistes. Alors, nous avons certainement quelque chose à apporter. Une forme de bonheur qui nous habite et qui, véritablement, va aussi témoigner auprès de ceux qui nous entourent. Alors, pour le bonheur, et conclure, pour le bonheur, je n'ai rien à faire. Je ne gesticule pas, je ne m'affole pas, je ne combine pas. Je crois que c'est important. Je fais une chose, je m'arrête, je stoppe. Là, c'est important. Je m'arrête, je me laisse rattraper. C'est Dieu qui court après moi pour me donner ce dont j'ai besoin et je cours en avant, je cours en avant. Stop ! On s'arrête et on se laisse rattraper par le Seigneur. Il a des choses à nous dire. Et si vous voulez vivre cette expérience, rentrez quand vous pourrez dans un moment de solitude et laissez-vous rattraper par le Seigneur. Parlez-lui, là, il est là. On n'a pas besoin de faire des prières. Dis Seigneur, dis-moi ce que tu as à dire. C'est ça qui est important. Révèle-toi à moi. Quel est mon besoin? Comment je peux faire? Et laissez-vous comme ça imprégner de tout ce discours intérieur que l'on peut faire et qui nous apporte en présence de Dieu quelque chose de pour nous dire. Laissons-nous atteindre, arrêtons-nous, remercions le Seigneur, confessons et repartons dans le moment de contemplation que nous avons avec lui. Je voudrais lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18, un passage que j'aime beaucoup, pour clore, de Corinthiens chapitre 3, un passage que vous connaissez aussi. Il est dit ici, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. » La contemplation du Seigneur dans la méditation nous transforme réellement et nous donne d'être véritablement bonheur. Il y avait une histoire que l'on raconte, elles sont vraies ou pas vraies, mais elles sont toujours pour illustrer une histoire qui nous dit que dans un certain pays, il y avait un roi qui avait un fils qui malheureusement n'était pas droit, était un petit peu courbé comme cela. Il a fait venir un sculpteur et il lui a dit « Tu vas faire la statue de mon fils dans le jardin, mais pas comme il est, fais-le beau, avec une lance, et puis fais-le beau. » Et la statue a été faite, et on a découvert cette statue, et le fils de ce roi, qui était mal en forme, est venu voir cette statue, et l'histoire dit « Voilà comment je suis, et voilà comment je pourrais être. » Et dans la méditation avec le Seigneur, c'est comme cela qu'on se découvre. Voilà comment je suis et voilà comment je pourrais être. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite à chacun de nous. J'en fais l'expérience, je remercie Dieu, je remercie mon épouse qui m'en donne l'occasion. Mais souvent, j'allais dire jeune pasteur, on part, prépare ceci, prépare cela, l'étude biblique, les ceci, les cela. On ne prend pas le temps de recevoir le Seigneur comme il faut. Et j'en ai fait l'expérience, j'allais dire tardivement, mais recevoir Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Et je souhaite qu'on ne perde pas de temps et que chacun de vous puisse le réaliser le plus vite possible. Amen.
Tout homme verra le bonheur. Oui. Un jour, si tu veux, tu verras le bonheur. Si aujourd'hui, la sueur d'angoisse t'envahit, si ton cœur retient comme une cage l'esprit qui veut partir, oui, un jour, si tu veux, tu verras le bonheur. Mais tu le sais, mon frère, ma sœur, mon ami, il n'en tient qu'à toi, qu'à personne ne peut à ta place ouvrir un ciel à ton angoisse. Personne ne peut à ta place planter des soleils aux fenêtres de ton âme. Personne ne peut à ta place offrir un sourire à l'autre, justement l'autre, celui qui, comme toi, cherche sa part. Sa part de ciel, sa part de joie, sa part de bonheur. Car lui aussi, eux aussi, quels qu'ils soient, un jour, avec toi, ils verront le bonheur. Car le bonheur n'est pas un pays aux frontières impossibles, ni douane, ni péage pour entrer dans ces terres. C'est une terre à portée de tous. À portée de matin. Si tu le veux, rien n'est impossible au rêve. Si tu le veux, rien n'est impossible à vivre. Il faut seulement que tu le veuilles. C'est sûr, tout le monde verra le bonheur. Et pour le faire, ce bonheur-là, le sais-tu ? Tu n'es pas seul, mon frère. Ma sœur. mon amie.